Histoire de matrimoine par Gaël Perel, les œuvres et les autrices en Bretagne depuis 1801.
Histoire de matrimoine est une invitation à découvrir les autrices en Bretagne, leurs œuvres singulières et universelles, écrites de 1801 à nos jours. Dans ce nouvel épisode, deux pépites littéraires sont à la une. Jabadao d'Anne de Tourville, prix Femina en 1951, et Un lycée pas comme les autres d'Yvonne Meynier, grand prix de la littérature jeunesse en 1962. Un roman et un roman jeunesse épistolaire. Ce qui les rassemble, ils viennent tous les deux d'être réédités dans la collection éditoriale Les Universels que j'ai le plaisir de co-diriger au sein des éditions Goater. Les Universels est une collection créée en 2023 dédiée à la publication des œuvres des autrices en Bretagne. Œuvre incontournable de notre patrimoine littéraire que nous décidons de rééditer. Pour inaugurer cette aventure éditoriale inédite en France, nous avons choisi Jabadao et Un lycée pas comme les autres, deux pépites, deux textes primés en leur temps à l'échelle nationale, écrits par des autrices originaires d'Ille-et-Vilaine qui font écho à notre époque. Deux romans intemporels qui nous transportent dans des imaginaires romanesques puissants. Commençons par Anne de Tourville, née Anne-Marie Noël de Tourville de Buzonnière. Originaire d'Ille-et-Vilaine, elle naît à Baie en 1910 en milieu rural, mais elle grandit en bord de mer. Son écriture vive, acérée, mordante, met en scène une Bretagne entre terre et mer, entre légendes et réalités. Peintre, nouvelliste et romancière, elle commence à écrire au sortir de la Seconde Guerre mondiale et nous verrons comment cette période douloureuse de notre histoire irrigue son imaginaire. En 1951, Anne de Tourville reçoit donc le prix Femina pour Jabadao, conte noir et jubilatoire qui s'ancre en Bretagne entre modernité et tradition, entre vie quotidienne et univers fantastique, entre religion et croyances païennes, entre farce et tragédie. Le Jabadao est une danse traditionnelle que l'on croit bannie par le clergé. C'est un péché mortel de danser le Jabadao et même de le regarder danser, dit-on en Bretagne. Ce drame burlesque s'ouvre sur le décès de Jalm d'Alène, le mari de Catel, soudainement veuve, qui va très vite se consoler de ce malheur, comme le confirme ce passage qui ouvre le roman. L'âme de Jalm d'Alène entra dans la liberté de l'au-delà, et d'un geste précis, sa soudaine veuve lui clencha les portes des yeux. À cause des papiers signés sur le lit, de l'or dedans l'armoire, et des champs béant leur blé à la clarté de la lune, et longtemps courait l'astre avant d'en avoir fait le tour, à cause de tout cela donc, qui allait désormais remplacer l'homme, la profonde et sincère douleur de Catel allait comme vers une sorte de paix. Ah, dans la foudroyante rapidité de ce coup, dans le désarroi d'une épreuve comme la sienne, merci à Dieu que tant d'argent lui soit remis à la place du mort pour la fortifier dès 7 heures et la laisser semblablement fortifiée à tout jamais. Dans ce grand Jabadao, tout se lit et tout s'oppose. L'eau et le feu, la terre et le ciel, l'âme, l'esprit et le corps, le monde d'ici et celui de l'encou, le monde des morts. Cette part d'invisible est omniprésente dans une société où la foi et la culture animiste sont souvent indissociables. Ainsi, dans Jabadao, les morts visitent l'atelier du menuisier, qui n'est autre que le bedeau. C'est sa femme, Marie-Hussane Gouliaz, très beau personnage féminin de Jabadao, qui entend les morts. accablé d'un don qui lui donnait par l'effet de la peur un visage jaune comme un citron, un don de franche épouvante, un sens prophétique angoissant, incomplet mais d'une réelle utilité, d'une utilité indiscutable. Précieux pour elle en tant qu'épouse d'un cloueur de cercueil, précieux à la vie d'un ménage comme le sien voué à des activités funéraires. Par exemple, elle entendait distinctement les morts venir à l'atelier, choisir et trier eux-mêmes les planches de leur bière au cours de la nuit qui précédait leur trépas. La disparition de Jalm d'Allen consacre donc le pouvoir de Catel et lui offre une nouvelle destinée, une deuxième naissance. Elle est riche, habite du côté des Nantis, au lieu dit de la rivière froide, et peut rêver à l'avenir radieux de son fils Ener, que nous découvrons à la mort de son père. Il a alors 10 ans. C'était un bel enfant, d'une figure extrêmement attachante, d'une intelligence ouverte et qui comptait beaucoup d'amis. Mais ce soir, dans la stupeur de sa première solitude, le monde lui apparaissait sous un aspect effrayant. Dans son inaction, son infinie détresse, il revint se cacher à l'abri d'un saule qui avait poussé près du porche et qui lui servait généralement de refuge dans les ennuis. Les racines offraient un siège moussu et commode, les feuilles l'entouraient d'un rideau bruissant et s'arrondissaient sur sa tête comme une cloche. À l'intérieur de cet arbre, il était aussi libre qu'une araignée d'eau voyageant dans sa bulle d'air. Ce soir, il y entra avec son malheur. La mort de son père était pour lui un étonnement sans bornes. À cause de cette longue guerre qu'il y avait eue, il ne connaissait pas beaucoup cet homme et avait passé tant d'années à l'attendre qu'il n'y avait plus de place dans son esprit, semblait-il, pour autre chose que cela. L'attendre et savoir que tout commencerait quand il serait arrivé. Or voilà que son père était venu et qu'au lieu d'être un commencement, c'était une fin. Il se sentait comme le reflet qui est de l'autre côté du miroir et il semblait que tous les liens, que toute communication entre lui et ce qui paraissait la réalité était rompue. Il aurait bien voulu que quelqu'un vînt à son secours, mais il ne savait pas qui. Son père était dans l'au-delà et son corps dessous la terre. Sa mère faisait des comptes avec des inconnus et quand sa mère comptait de l'argent, personne n'osait la déranger. Ah, mieux valait rejoindre Gilly Mourou et même faire mine de jouer avec lui si Gilly tenait absolument à jouer que de rester ici. Ce garçon, fils du premier charretier, d'un caractère ombrageux et fidèle, était pour lui comme un frère. Ensemble, ils faisaient beaucoup de sottises, mais plus encore de choses très bien, comme sifflet, épouvantail et pêche excellente dans la rivière froide. Une amitié aussi sûre devait durer plus que la vie. Bouleversé par la mort de son père, Ener a la très mauvaise idée de franchir le pont des écrevisses qui sépare les riches de la rivière froide des pauvres des collines roussies. De ce côté-là du pont des écrevisses, sur la colline roussie, il rencontre Gaud dont il tombe amoureux. Mais voilà Gaud juste avant que son destin ne bascule. Elle remarqua surtout ce matin-là qu'un petit oiseau gris porteur de nouvelles s'était attaché à ses pas depuis sa sortie de la maison. Il ne cessait de la suivre dans le sentier en poussant son mince cri aigu. Il est toujours plaisant d'entendre un porteur de nouvelles venir à vous car il ne se dérange que pour les choses agréables. Et Gaud pensa que l'épicière lui paierait ses châtaignes un bon prix. Mais quand, au carrefour de l'arbre blanc, elle vit plusieurs oiseaux porteurs de nouvelles criant dans les feuilles sur un ton d'allégresse extraordinaire, elle se demanda bien ce qui allait lui arriver. Dès cette rencontre, Ener et Gaud s'aiment et plus tard confirment leur désir de se marier aux grandes dames de Catel. Car le mariage d'Ener d'Allen, riche héritier de la Fentonion, avec Gaud Argwen, la pauvre roussie, bouscule la partition sociale de ce territoire et trahit les rêves de Catel qui va maudire cette union et s'en trouver fort mal. Le jour du mariage, nous la retrouvons alors qu'elle vient de lancer sa malédiction. Thank you. Depuis que la riche veuve avait reculé dans sa maison, à moitié morte d'effroi devant le sacrilège qu'elle venait d'accomplir, elle s'était laissée tomber dans son grand fauteuil et ses bijoux d'or étaient secoués sur sa poitrine, haletantes comme les flancs d'un animal sauvage qui a fui devant la mort tout un jour. La femme du bedeau, qui avait été créée pour le bien de n'importe quel affligé, l'avait suivie. Toutes les forces de pitié qui étaient en elle luttaient contre son profond dégoût. Elle lui apporta une forte liqueur dans un verre. « Buvez sa vie, dit-elle, pensant que, puisque Dieu ne faisait pas mourir à l'instant une si mauvaise créature, il fallait bien prendre son parti de la voir vivante et même essayer de réparer le mal qui venait d'être commis. » La veuve, d'abord hébétée, se ranima par la liqueur. Elle commença à comprendre quel gouffre elle venait d'ouvrir et une grande joie lui vint d'avoir servi la fille roussie, comme il convenait. Mais dans le même instant, l'épouvante s'éleva dans son esprit. N'avait-elle pas englobé son propre enfant dans la parole ? Santes anan beniget, l'avait-elle maudit lui aussi ? Oui, elle l'avait fait. Et son salut éternel, après cette chose, était-il perdu, oui ou non ? Perdu, complètement. Au son des biniou, après les paroles funestes prononcées par Catel, tous les personnages sont emportés dans la danse du diable, le Jabadao, et leur existence se teinte de fantastique et de mystère. De la rivière froide aux collines brûlées, tout le monde est chamboulé par ce grand chambardement. Les générations se confrontent à travers le destin d'Ener et de Gaude, figures pures et poétiques de cette fable. Tout en respectant les équilibres cosmologiques, ces amoureux font imploser cette société figée dans les inégalités et les a priori de classe. Au-delà de leur amour, ce duo incarne des valeurs humanistes face aux logiques d'argent et de pouvoir. Jabadao nous raconte une histoire de l'humanité où le bien s'oppose au mal, où l'amour et l'amitié luttent contre la haine, où la générosité des uns trahit l'accaparement des biens communs opérés par les autres. Ce conte est porté par de très beaux personnages féminins qui vont protéger les jeunes amoureux et permettre à un monde plus juste d'émerger. Ce roman écrit après la Seconde Guerre mondiale invite ses contemporains à réinventer le rapport au sensible, à faire toute sa place à une jeunesse qui ne demande qu'à croquer la vie et à réenchanter le monde. Ce qui fait de Jabadao une lecture d'une vibrante actualité. Un air de jazz, un air de jazz de Glenn Miller pour introduire le roman jeunesse épistolaire de cette nouvelle collection, Les Universels. Ce texte d'Yvonne Meynier, un lycée pas comme les autres, nous raconte l'histoire vraie du déplacement du collège et lycée de filles de la capitale bretonne Rennes à La Guerche, commune située à 40 km plus à l'est. Nous sommes en octobre 1943, et la décision est prise de déplacer 600 élèves pour tenter de les protéger des bombardements meurtriers qui s'abattent sur Rennes et sa région depuis le printemps 1943. À La Guerche, à la guerre comme à la guerre. Les jeunes filles sont logées chez les habitants et les classes s'improvisent. 26 octobre 1943, mes chéris. J'ai décrit à papa la curieuse installation. Je ne crois pas m'être trompée. Une classe dans un garage, une classe dans un magasin coupé en deux, une demi-cloison vous séparant de la vente du calicot, 5 classes dans un autre garage, à l'autre bout de la place du foirail, le réfectoire dans une salle de danse, une classe rue d'Anjou, la permanence je ne sais plus où. Et naturellement, toutes les élèves chez des particuliers. Je plains la direction. Mam. Cette histoire extraordinaire nous est racontée par Yvonne Meynier, autrice jeunesse, qui se voit décerner de nombreux prix, dont le Grand Prix de la littérature jeunesse, en 1962, pour ce très beau roman épistolaire. Un livre, c'est pas comme les autres, publié alors dans la bibliothèque Rouge et Or, La Souveraine. Inspirée de faits réels, originaire du Limousin, Yvonne Meynier s'installe à Rennes en 1938 avec son mari géographe et leurs trois filles. Ce récit jeunesse, drôle et tendre, est un témoignage rare sur ces années d'occupation, telles qu'elles sont traversées par une famille et deux adolescentes. Cette correspondance, tour à tour tendre, inquiète et drôle, qui se tient du mois d'octobre 1943 à juillet 1944, relie Odette, la lycéenne, et Yvette, la collégienne, à leur famille restée à Rennes. 40 kilomètres les séparent de leurs parents et de leur petite sœur Bébichou. À l'heure des bombardements, des moyens de transport limités, des services postaux irréguliers. Septembre 1943. Ma petite maman. La grande nouvelle a eu l'effet d'une bombe dans notre camp, immédiatement d'ailleurs divisé en deux camps, celui des réjouis, celui des attristés. Chef Antilope a rétabli l'ordre, d'autant plus qu'au même courrier, elle recevait des précisions supplémentaires. Le lycée paraît-il replié à la Guerche, petit bourg à 40 km de Rennes. Odette. Odette l'aînée et Yvette, sa sœur cadette, vont donc passer une année dans ce lycée pas ordinaire, éloignés de leurs parents et de leur petite sœur Dani, alias Bébichou, qui n'a alors que 5 ans au début de l'année 1943. Leur vie de famille bouleversée par cette séparation se réécrit au fil des lettres, principalement échangées entre la mère et ses deux grandes filles. 26 octobre 1943. Mes chéries, lorsque je suis revenue hier soir de la Guerche, il m'a semblé que j'étais manchotte. Mes deux bras inutiles sans la légère charge de vos bras. J'ai retrouvé le joli désordre de votre chambre et alors, vous m'avez paru beaucoup moins lointaine. Papa et Dani m'attendaient avec une provision de questions. Il a fallu que je leur décrive votre chambre à la Guerche. Naturellement, j'ai prétendu qu'elle était au nord et papa immédiatement m'a dit « Comment pourrait-elle être au nord puisqu'elle donne sur la cour et que l'avenue de la gare qui lui tourne le dos est nord-sud ?» C'est géographe. Je pense que je l'avais vue au nord parce que j'étais un peu triste de vous y laisser. Je vous embrasse, mes petites pensionnaires, mam. L'année scolaire 1943-1944 est celle de tous les contrastes, de toutes les incertitudes et de tous les combats. Ces lettres nous la donnent à vivre au plus près des préoccupations d'une famille qui peine à se ravitailler, à se chauffer, à s'habiller, mais fait preuve de la plus grande ingéniosité pour parer au manque et à l'absence. Cette résistance de tous les instants s'éprouve jusque dans les murs de leur maison qui vacille dangereusement à chaque attaque, mais se redresse immanquablement. Séparés, unis et solidaires, toute la maisonnée affronte la répression allemande et la violence des bombardements qui s'abattent sur toute la région. Des bombardements annonciateurs d'une libération attendue. 3 janvier 1944. Mes chéris, que pensez-vous de ce Noël ? Pour un Noël de guerre, il a été assez réussi, me semble-t-il. Du vrai feu dans la cheminée pour la veillée, avec ses deux grosses bûches rapportées de nos promenades, un faux sapin, un thuyam et un vrai conifère, une vraie chandelle achetée au rayon cierge et couronne mortuaire. Et voilà, mes chéris, en route pour 1944. Il faut que ce soit une année de victoire sur tous les fronts, comme aime à le répéter Odette. Et en ce qui vous concerne particulièrement sur le front scolaire. Allons mes chéris, bon courage, je vous embrasse, mam. Ce témoignage précieux et inédit de l'histoire contemporaine bretonne et brétilienne, ces lettres nous racontent un moment de l'histoire où tout bascule, où les cartes du réel se redéploient sans cesse, où chacun et chacune apprend à s'adapter dans l'urgence, où l'essentiel émerge souvent du pire. 18 juin 1944 au matin. Manchatte, je trouve la guerre idiote. Il y a 4 ans, nous étions sur le pas de la porte et nous disions « Quel temps magnifique, un vrai temps de vacances !» Et puis nous avons entendu 3 coups sourds, puis 2 autres, et une explosion immense, comme si toute l'atmosphère craquait, et des nuages noirs immenses, et un bruit immense. Les carreaux, les plâtras, les volets, tout tombait autour de nous. Nous avons couru vers la tranchée qui n'était même pas tout à fait creusée. Tu as pris bébé Danny dans tes bras, et quand tu l'as posé dans la tranchée, il est tombé toute une pluie de verre de sa petite jupe rouge, une petite jupe tyrolienne où tu avais brodé des sapins et un chalet suisse. Je t'embrasse, Yvette. À la violence de la guerre, cette famille résiste au découragement, à l'absurdité, au manque et à la peur, avec la conviction partagée que la fin du cauchemar s'approche, et dans l'attente de la libération, elles se témoignent mutuellement une attention permanente. 20 juin 1944, ma petite maman. Je suis de ton avis au sujet de l'atmosphère à créer autour de Baby Chou. Notre petite sœur chérie sera sans doute assez marquée par cette période. Pour les adultes de 40 ans, par exemple, cet épisode ne compte que pour 1/10 de leur existence. Pour les enfants de 6 ans, c'est presque toute leur existence. Tu nous as dit qu'en 1938, les rumeurs de guerre créaient déjà un climat de nervosité. Souhaitons que leur vie soit longue, longue pour renverser les proportions. Mais pour l'instant, toute leur vie est une vie de guerre, de peur, de privation. Je pense que leur génération, notre génération surtout, a compris... et qu'il n'y aura plus jamais, jamais de guerre. Odette. De Rennes à la Guerche, de Liffré à Bru, ville déclarée martyr suite à des bombardements particulièrement meurtriers, retour sur cette année scolaire singulière où le temps comme la vie sont suspendus à l'arbitraire. Un roman jeunesse lumineux et plein d'humanité pour raconter à hauteur d'adolescente une année de guerre si particulière. Ce roman est un hymne à la vie, une lecture tendre et haletante à partager en famille dès le collège. Les Universels, une collection poche à découvrir en librairie, de beaux livres à petit prix, illustrés avec talent par Lucie Rouillet, aux éditions Goater.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas, non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question, non, 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 non. Il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur. Faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.